France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. En une semaine, la première de l'année, Donald Trump nous a littéralement étourdis. La nuit dernière, nouvel avertissement au régime iranien. Hier, annonce de frappe à terre au Mexique contre les cartels de la drogue. Mercredi, arraisonnement d'un pétrolier battant en pavillon russe. Samedi dernier, arrestation de Maduro, menace sur Cuba, la Colombie et le Groenland. Sans oublier le retrait de 66 organisations internationales et la promesse d'une nouvelle augmentation du budget du Pentagone. Pourquoi un tel feu d'artifice, si ce n'est pour marquer à sa façon le premier anniversaire de son retour au pouvoir, un pouvoir qu'il conçoit sans limite, mis à part son propre sens de la morale, comme il vient de le déclarer sans pudeur au New York Times. On savait la prédilection du 47e président pour le grand spectacle et les bonnes audiences à la télévision, son narcissisme, sa stratégie constante de saturer l'espace médiatique et les réseaux sociaux, on atteint là une sorte d'apothéose. Seulement voilà, comme il aime à le répéter, Donald Trump est bien l'homme le plus puissant du monde. Les Américains ne lui en savent pas suffisamment gré, se plaint-il, puisque sa popularité est en berne, le coût de la vie ne faiblit pas et la brutalité policière révolte une bonne partie de l'opinion, surtout ces jours-ci, depuis la mort d'une jeune femme à Minneapolis. Distorsion ou contournement des lois nationales, mépris du droit international, les deux démarches vont de pair. Alliés, rivaux et ennemis des États-Unis sont désormais traités à la même enseigne, en tout cas par les idéologues les plus fervents de la Maison-Blanche, et la riposte n'est pas évidente. Le Kremlin reste étonnamment placide depuis l'affaire du pétrolier, sauf à frapper l'Ukraine d'un missile balistique d'une pluie de drôles et à fustiger les Européens volontairement pour la défendre. La Chine, directement atteinte dans ses investissements économiques au Venezuela et en Amérique latine, annonce des poursuites par voie légale, mais savoure des propos ambigus au sujet de Taïwan. Au Venezuela, le deal est clair, le régime reste en place, le scalp de Maduro figure au tableau de chasse présidentiel et le pétrole sera exclusivement américain. Quant aux Européens, ils n'ont d'autre choix que d'affronter l'évidence. Les États-Unis sont bien cette puissance impériale, coloniale, prédatrice, qui entend leur imposer ses exigences et même son idéologie pour peser sur leurs propres échéances électorales. Donc comment comprendre cette escalade? Existe-t-il des freins à cet emballement? C'est ce que nous allons voir ce matin grâce à vous, Tara Varma. Vous dirigez le programme de prospective stratégique du German Marshall Fund et vous êtes à Paris maintenant, on s'en réjouit. Frédéric Charillon, professeur de relations internationales à l'Université Paris-Cité, directeur de l'Observatoire des stratégies d'influence à l'ESSEC et fondateur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche politique de Sciences Po, CEVIPOF, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et à l'Institut Jacques Delors, et Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent, qui propose chaque vendredi matin une chronique sur France Culture. Frédéric Charillon, seule la force compte, on l'a compris. C'était déjà esquissé pendant ce premier mandat, maintenant avec le second, c'est évident. Est-ce que c'est une surprise, une accélération, ou véritablement, voilà, quelque chose auquel désormais aucun acteur du jeu international ne peut échapper?
Mais d'abord, c'est un retour, on va dire, à la loi classique des relations internationales. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les relations internationales depuis, j'allais dire, la nuit des temps, mais en tout cas, aussi loin qu'on peut remonter avec des archives sur les relations internationales, et Thucydide nous l'apprenait à propos des guerres du Péloponnèse, c'est une affaire de rapport de force. Alors, effectivement, là où c'est douloureux pour nous, Européens, c'est que nous espérions, on n'était pas tout à fait les seuls, d'ailleurs, mais enfin, surtout nous, Européens, nous espérions depuis quelques années, surtout depuis la fin de la guerre froide, donc une grosse trentaine d'années, disons, que nous avions réussi à bâtir un monde justement plus pacifique, plus sinon consensuel, au moins où nous pourrions nous entendre, où nous pourrions négocier et où la force n'était plus le paramètre principal. On y est revenu. On y est revenu progressivement. Les États-Unis ont joué un rôle quand même là-dedans. Il y a plusieurs années avec la période néoconservatrice dans les années 2003 avec l'invasion de l'Irak. Ensuite, ça s'est dégradé de plus en plus. Il y a eu la Géorgie, il y a eu l'Ukraine, il y a le Moyen-Orient. La force revient bel et bien au centre des relations internationales. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que les tenants de cette posture, qui sont convaincus que seuls, non seulement la force, mais pire encore, le fait accompli fonctionne, sont peut-être majoritaires. En tout cas, ils sont à la tête de très grands pays. Et tout ce que nous croyons, tout ce en quoi nous croyions, nous les Européens, c'est-à-dire que on pouvait faire un monde multilatéral, un monde de négociation, un monde de concertation, et aujourd'hui montré du doigt par ces hommes forts, ou en tout cas auto-qualifiés de tels, comme justement tout ce qui est has-been, naïf, loser, et malheureusement ça fonctionne, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'opinions publiques dans le monde qui y croient, et qui disent voilà, au moins ceux-là, ils agissent, ils utilisent la force, ça bouge. Les aimables démocrates libéraux nous répètent la même chose depuis des années et rien ne se passe.
Florent Parmentier, on voit que Vladimir Poutine, parce que beaucoup des qualificatifs de Frédéric s'appliquent à lui absolument, on voit ce Poutine qui reste, comment dire, extrêmement timide vis-à-vis de Donald Trump, depuis cette histoire de vieux tanker qui a peint un drapeau russe sur sa coque à la dernière minute. Simplement, le Kremlin s'est félicité du retour dans la mère patrie d'un certain nombre de marins russes qui étaient quand même à bord. Comment expliquer cette réaction et aussi cette similarité, ce parallélisme dans les méthodes, finalement?
Il faut se souvenir que Vladimir Poutine était, j'allais dire, en 2007, lors du fameux discours de Munich, à la conférence de sécurité, février 2007, extrêmement agressif vis-à-vis des États-Unis en décrivant un camarade loup qui mangeait sans s'arrêter. Discours qui, à l'époque, paraissait complètement, j'allais dire, dénué toute forme de réalité, qui, avec le recul, est plus, en tout cas, mérite d'être relu, parce que ça annonçait un certain nombre de tendances que Frédéric Charillon a fort bien décrites. Lors de l'arrivée de Donald Trump, il y a eu à la fois une forme peut-être d'incompréhension qui peut s'installer entre les deux. Incompréhension parce que du côté de Donald Trump, il y a eu cette attente de régler cette guerre de Joe Biden en 24 heures qui n'a jamais été faite. Il y a une réaction très timide sur effectivement la libération des deux marins russes, sachant qu'il y avait sur le même bateau beaucoup de marins ukrainiens, on oublie, et de marins géorgiens. Ça vaut la peine d'être rappelé. Ce que ça nous dit profondément, c'est la chose suivante. Lors du premier mandat de Donald Trump, en 2017, un journaliste du New York Times, Roger Cohen, avait parlé d'une russification des États-Unis, the Russification of America. Ce qu'il nous disait à ce moment-là était, eh bien, il y a des ressorts chez Donald Trump qui ressemblent à ce qu'on a pu observer en Russie. Mépris pour la presse libre. Sur des questions liées le rapport à la vérité, qui n'était pas évident, sur des propos populistes nationalistes. Donc il y avait cette idée, qui était une hypothèse d'évolution des États-Unis vers quelque chose qui y ressemblait. Alors évidemment, comparaison n'est pas raison. Il y a beaucoup de la coupe aux lèvres entre ce que la Russie est vraiment, ce que la Russie prétend être, et puis ce que les États-Unis peuvent reprendre comme dynamique interne.
Mais s'agissant de la personnalité de Donald Trump, manifestement,
il y a quelque chose, effectivement.
Si je peux me permettre cette ironie, ça s'est aggravé avec l'âge.
Ça s'est aggravé. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans le cadre de ce second mandat, c'est un autre papier d'un journal canadien qui s'appelle La Presse, dans lequel on a parlé, le titre de l'article était « La russification des États-Unis se poursuit ». Et là, il y a une évolution de l'analyse de ce concept de russification qui est passé de l'analyse d'une dynamique interne illibérale aux États-Unis, qu'on peut abusivement considérer comme russification, parce que les Russes peuvent avoir ou non intérêt, selon les éléments, à reprendre cette russification, à quelque chose qui évolue un peu en matière de politique étrangère. La stratégie nationale de sécurité 2025 est absolument horrible et inintendable pour des Européens, grosso modo, c'est une déclaration d'hostilité, pour pas aller plus loin, assez forte et assez extrêmement franche. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lui, a plutôt considéré finalement que les États-Unis arrivaient à une forme de compréhension. Mais, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut s'arrêter, c'est de dire que, c'est pas parce qu'il y a des dynamiques politiques internes que vous allez vous ressembler. Et parfois, il y a des formes d'hostilité mimétique, au sens de René Girard, qui peuvent s'exprimer. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous vous ressemblez que vous allez nécessairement tomber d'accord. Vous allez parfois, précisément parce que vous commencez à vous ressembler, avoir des sentiments d'hostilité assez forts. C'est dans cette relation particulière entre des relations individuelles, entre patrons et puis des dynamiques de régime que se situe la relation russo-américaine aujourd'hui.
Tara Varma, quand on lit cet extraordinaire entretien, un entretien qui a duré 2 heures, accordé par le président des États-Unis au New York Times, qui est le journal qu'il qualifie périodiquement de « failing New York Times », donc le journal en perdition, qui n'a plus de lecteurs, etc. Il y a ce propos extraordinaire où il dit « mais moi, je m'en fous du droit international. Ma seule limite, c'est mon sens moral. » Bon, ce que l'on voit surtout, c'est une logique d'appropriation en promoteur immobilier qu'il demeure. On l'avait vu à propos de Gaza, on le voit maintenant à propos du Groenland et à propos du Venezuela. Donc cette idée, en fait, que voilà, il faut s'approprier, mais de façon très matérielle, de l'espace.
Tout à fait. C'est une logique de prédation avec Trump, en permanence, en fait, de prédation économique. De prédation territoriale, on sait qu'il pense beaucoup à ses prédécesseurs américains, que c'est important pour lui de rester dans les livres d'histoire, et qu'il se dit, et qu'il dit d'ailleurs à haute voix régulièrement, que les présidents qui sont restés dans l'histoire sont ceux qui ont étendu le territoire américain, qui ont agrandi le territoire américain. Donc cet élément d'expansion territoriale, il lui importe beaucoup, et on a tendance à penser que ce sera toujours de l'invasion militaire, mais Trump, il est effectivement assez réticent à lancer les États-Unis dans un bourbier militaire, très critiqué d'ailleurs par une partie de ses soutiens de la mouvance MAGA, où il y a quand même un certain nombre de vétérans de la guerre d'Irak et d'Afghanistan qui sont contre cette logique interventionniste américaine. Et lui, il croit à des interventions courtes, donc ce qui s'est passé au Venezuela, l'emploi de la Delta Force, donc des forces spéciales américaines, une force fondée en 1977, qui sont entrées dans le pays et qui, en fait, en l'espace d'une journée, ont capturé le dictateur en place et l'ont ramené aux États-Unis pour qu'il soit ensuite jugé. Lui, il trouve que c'est une opération qui fonctionne bien. De la même manière, il a menacé le Panama aussi d'une forme d'annexation. Il n'a pas envie que les États-Unis se retrouvent en guerre. Ce qui nous inquiète, nous, Européens, c'est la partie, évidemment, sur le Groenland. Alors moi, je l'ai dit, je ne crois pas à une invasion militaire du Groenland, mais il croit beaucoup à une forme d'annexation économique, l'utilisation de la coercition économique pour contraindre les alliés. Et ce qui a été évoqué aussi par Frédéric Charillon et Florent Parmentier, ça nous inquiète, nous, Européens, parce qu'on ne pensait pas qu'il utiliserait la menace de la coercition économique et potentiellement militaire contre ses propres alliés. Mais Trump, il l'a annoncé à plusieurs reprises, il n'a pas l'intention de traiter les alliés d'une meilleure manière que ses rivaux. Il trouve, et ça il le pense depuis les années 80, que les alliés prennent avantage des États-Unis depuis toujours, que en fait c'est un mauvais deal pour les États-Unis d'avoir des alliances. Et donc en fait ce qu'on voit, c'est qu'il est plus dur avec ses alliés qu'avec ses rivaux.
Et il affirme même que l'OTAN, en fait, c'est pas sûr que ça serve à quoi que ce soit aux États-Unis, alors qu'il a manifestement oublié que la seule fois dans l'histoire de l'Alliance Atlantique où l'article 5 a été invoqué, c'était après le 11 septembre. Mais Gilles Gressani, il y a quand même prioritairement, et c'est évident depuis pratiquement un an maintenant, depuis le retour au pouvoir de Trump, et il y a cette obsession de l'appropriation des ressources, et des ressources énergétiques en particulier. C'est toujours cette idée, c'est à nous, ça nous appartient. Même Rubio, qui apparaît maintenant presque comme étant un peu plus traditionnel, en tout cas dans sa manière de s'exprimer, le dit, c'est à nous, l'hémisphère occidental, c'est à nous, et dans le cas du Groenland, ça doit être à nous.
Ben effectivement, on se trouve dans quelque chose qui est très difficile à définir, à analyser, parce qu'il est réellement historique. C'est une vraie rupture, en fait. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'avaient jamais menacé d'invasion 5 pays en quelques heures, après avoir envahi un 6e pays pour capturer un président en place. Là aussi, il n'y a pas trop de comparaisons. Il faut peut-être revenir à Montezuma et Cortés pour retrouver le même type d'opération, en 1520.
Ça avait laissé beaucoup de microbes, hein.
Jamais les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient fait de leur doctrine politique internationale la conquête, l'annexion territoriale. Laissons de côté pour le moment que le Groenland est quand même associé à un allié historique des États-Unis, mais même simplement le simple fait de vouloir prendre un bout de terre. Et ça change fondamentalement la manière dans laquelle la Maison-Blanche pense le monde. Et je pense que ce n'est pas anodin pour comprendre le monde dans lequel se retrouvent les États-Unis. Quelque part, on pourrait dire que pour expliquer ce qui se passe, ce moment de fuite en avant historique, il faut revenir à ce que c'est une machine révolutionnaire. Et une révolution, c'est une machine très bizarre, parce que la seule manière pour qu'elle n'aille pas se cracher, c'est qu'elle doit tout le temps accélérer. Et aujourd'hui, on est, vous l'avez rappelé, à quelques jours de l'an 2 du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Beaucoup a été fait en une année, on pourrait se dire qu'en fait, beaucoup a été fait, mais en même temps, c'est beaucoup trop et pas assez. Ça fait, fondamentalement, on le voit, les chiffres sociologiques et économiques ne sont pas si bonnes. Dès qu'on vote, les résultats sont très mauvais pour le camp MAGA. Les mi-termes risquent d'être très difficiles. Il y a encore des juges et il y a beaucoup de preuves d'actes, disons, à la limite de la loi exécutée par cette administration. Donc, tout le monde a l'impression, dans le petit groupe, dans le clan Trump qui s'est installé, que si ils n'arrivent pas, en très peu de temps, à totalement disloquer l'état de droit des États-Unis, tout cela finira très mal pour eux. Et donc, il y a toujours cette idée d'utiliser le levier international comme une manière pour désosser la République américaine. Et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui avec une accélération qui est explicitement énoncée par les idéologues autour de Trump et qui désormais fait que, effectivement, la doctrine globale de la Maison-Blanche, la première puissance militaire au monde, c'est la recolonisation.
La recolonisation, Frédéric Charillon, il y a un entourage, un premier cercle. Il y a cette photo tout à fait intéressante dans sa mise en scène. Il y a deux photos, à mon sens, qu'il faut retenir. Il y a la photo de Trump imitant Obama, suivant, haletant la capture de Ben Laden. Donc, on a vu la capture de Maduro avec pratiquement une mise en scène identique. Et cette photo de Vanity Fair où la directrice de cabinet, Susie Wiles, a osé dire qu'en fait, Trump, qui ne boit pas une goutte d'alcool, a un tempérament d'alcoolique. Mais on voit dans cette photo Stephen Miller, qui est donc directeur adjoint du cabinet, qui a 40 ans et qui est véritablement l'idéologue en chef, celui qui dit « seul compte la puissance, seul compte la force, seul compte le pouvoir ». Et là, est-ce qu'il y a ou non des luttes d'influence entre ces différents personnages ?
Probablement. Alors, Tara connaît ça beaucoup mieux que moi parce qu'elle a passé 3 ans à Washington, pas moi. Mais il y a quand même une constante dans le processus de décision d'une politique étrangère. C'est que lorsqu'on a à la tête de l'État, bon, traditionnellement dans ce type de grand pays, la politique étrangère est entre les mains des plus hauts décideurs. Ce qui est aussi le cas de Donald Trump. Mais il y en a qui connaissent un petit peu les affaires internationales et d'autres beaucoup moins. Et il ne semble pas que Donald Trump soit un grand connaisseur des relations internationales. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas caché lorsqu'il a été élu la première fois. Donc il fonctionne, on le sait, par coup de tête, par caprice, par impulsion, mais ce n'est pas un homme de dossier. Ce n'est pas quelqu'un qui a d'ailleurs probablement pas non plus l'intention de se coller sur un dossier pour en comprendre vraiment les ressorts. Bon, il s'est entouré en plus de fidèles, qui eux non plus ne sont pas des grands diplomates. Ce ne sont pas à qui il a confié des dossiers qui ne sont pas les plus simples de la planète. Ça va de la question israélo-palestinienne jusqu'à l'Ukraine ou bien d'autres encore. Donc il y a un noyau dur autour d'un président qui ne connaît pas les affaires internationales, deux personnages qui eux-mêmes ne sont pas non plus du tout des spécialistes de tout ça. Ça, évidemment, ça déclenche une guerre des autres groupes autour. Et donc, on va probablement avoir affaire à des groupes de pression, ou en tout cas des réseaux, ou en tout cas des groupes d'individus qui ont chacun leurs propres obsessions. Alors, ceux qui veulent leur revanche sur Fidel Castro, sur le régime castriste cubain, ceux qui voudrait ramener le fils du Shah d'Iran au pouvoir, parce qu'il y a aussi beaucoup d'Iraniens aux États-Unis, qui pousse dans ce sens ou pas forcément d'ailleurs, on va avoir ce déchaînement de petits groupes, de lobbies, de pression, parce qu'au centre, nous n'avons pas une colonne vertébrale, apparemment, de personnes qui connaissent bien les affaires internationales. George Bush, père, c'était un très bon spécialiste des questions internationales. Le fils, pas du tout. On a vu ce que ça a donné. Forcément, autour, on est un petit peu otage. Quand on ne connaît pas ces dossiers et qu'on s'entoure de gens qui ne les connaissent pas non plus, on est un petit peu otage de toutes ces pressions qui vont se multiplier.
Et vous êtes sévère quand même vis-à-vis de Marco Rubio, qui est à la fois secrétaire d'État, conseiller à la sécurité nationale et bizarrement directeur des archives. Probablement pour protéger les archives.
Probablement.
D'ailleurs, il me semble que dès le début, dès l'élection, donc il y a un peu plus d'un an, il a été précisé qu'il n'y aurait aucune trace écrite des discours de Trump, c'est ce qui est une précaution sidérante. Mais Rubio, lui, qui était un néo-conservateur, il a un peu plus de bouteilles. Et ce qui est sidérant aussi dans cette interview du New York Times, c'est qu'à un moment donné, le président des États-Unis appelle Vance et Rubio et il dit « kids ». Donc, les gamins, d'ailleurs, montrez-moi vos chaussures. Parce qu'apparemment, il leur a offert à chacun 4 paires de chaussures pour être sûr qu'ils soient bien chaussés. Bon, c'est de l'anecdote, mais tout cela révèle un style au sommet de la première puissance du monde qui est quand même tout à fait singulier. Tara, il y a des échéances. Il y a un discours sur l'état de l'Union le 24 février. On a passé un peu trop vite, me semble-t-il, sur l'anniversaire du 6 janvier et une réécriture absolument sidérante publiée officiellement par la Maison-Blanche où les émeutes du Capitole sont totalement attribuées aux démocrates qui auraient donc en fait incité de braves partisans à aller casser le mobilier. Comment s'inscrit cette séquence, comme on dit aujourd'hui, par rapport à une situation économique qui n'est pas tellement brillante, en tout cas du point de vue des électeurs
Alors, on est dans le monde de Trump, qui est quand même un showman, c'est quelqu'un qui est dans le divertissement en permanence. Pour qui le fait de faire la une des journaux partout dans le monde est essentiel. Et donc, il est dans la distraction. Effectivement, les chiffres des données économiques sont catastrophiques.
Enfin, catastrophiques, faut pas exagérer non plus.
Il avait dit que les États-Unis resteraient la première puissance. 2026 va être une année très compliquée sur le plan économique pour les États-Unis. Il va y avoir les conséquences de tous les tarifs qui ont été imposés aux pays alliés des États-Unis. Un certain nombre de PME américaines qui ne seront pas en mesure, en fait, d'importer les produits dont elles ont besoin. Ça va être assez dur dans les mois à venir parce que on verra s'ils décident de lever les tarifs ou non. Mais pour les grandes entreprises américaines, les choses devraient arriver, ça devrait se passer pas si mal. Pour les plus petites entreprises, qui sont quand même aussi le cœur de la vie économique américaine, ce sera beaucoup plus dur. Ils n'ont pas du tout été sollicités dans la mise en œuvre de ces politiques économiques, il faut bien le dire. Et eux s'en plaignent beaucoup à l'équipe de Trump. Sur le plan politique, c'est très dur aussi. Effectivement, on voit que dans les sondages, les opinions sont de plus en plus défavorables à Trump.
Ça représente combien? Parce que, pour nous, c'est sûrement un chiffre mirifique, mais je crois qu'il reste à quoi? 34% d'opinion favorable.
Oui, tout à fait. Mais par contre, les actions qui concernent notamment les questions migratoires et l'assassinat de cette femme à Minneapolis par un agent de l'agence d'immigration l'a vraiment fait chuter dans les sondages et fait chuter toute l'équipe du président aussi dans les sondages. Donc ils s'en rendent bien compte, ils ont envie, on sent. De s'assurer peut-être que les élections de mi-mandat soit n'aient pas lieu, soit décalées. En fait, ils ont vraiment peur de la défaite, surtout à la Chambre des représentants. Au Sénat, il est fortement probable qu'ils conservent cette courte majorité. Mais s'ils perdent à la Chambre des représentants, ça lancera un signal dont ils n'ont pas du tout envie. Et on voit sur le plan de la politique étrangère que Trump, quand même, il croit aux sphères d'influence. On n'avait pas envie, nous, Européens, d'y croire, mais il croit à un monde où un certain nombre de pays, 3 pour les nommer, les États-Unis, la Russie et la Chine, ont le droit à leur propre sphère d'influence. Dans le cas de la Chine, ça concerne Taïwan, ça inclut Taïwan. Dans le cas de la Russie, ça inclut l'Ukraine, peut-être toute une partie de l'Europe centrale et orientale. Et dans le cas des États-Unis, la sphère d'influence géographique est bien plus large. Et dans ces sphères d'influence, ils considèrent que ces 3 pays ont le droit un peu de faire ce qu'ils veulent. Donc coercition militaire, économique, territoriale. Ce qu'on voit aussi, et vous l'aviez évoqué sur le 6 janvier, c'est une administration, et Trump en particulier, qui incarne une forme de révisionnisme historique et territorial, là aussi. Et cette notion de révisionnisme, elle me semble absolument clé dans la vision de Trump pour parvenir à cette vision, pour atteindre ses objectifs, il remettra tout en cause, évidemment la notion de vérité avant tout, et ça c'était vrai dans son premier mandat. Très vite, on nous a parlé d'ère de la post-vérité, des faits alternatifs, et en fait ça c'est quelque chose en lequel il croit fondamentalement. Je pense que maintenant il croit à ses propres mensonges, et que l'équipe autour de lui ne cherche pas à le contredire. On voit une vraie compétition, d'ailleurs, dans cette opération au Venezuela, peut-être au Groenland, entre différents conseillers de Trump. Pour Marco Rubio, qui est effectivement la personne la plus expérimentée en matière de politique étrangère et de sécurité, il s'agissait vraiment de rompre les liens entre Venezuela et Cuba et de procéder à un changement de régime dans un certain nombre de pays de cette région, d'acquérir des ressources minières et pétrolières. Mais en fait, on voit aussi que la plupart des compagnies pétrolières américaines disent elles-mêmes que ce n'est pas possible d'investir au Venezuela aujourd'hui, qu'il faudrait...
Ils l'ont dit hier. Hein,
Ils l'ont dit, le PDG d'ExxonMobil, donc une des plus grosses compagnies pétrolières américaines, l'a affirmé. On voit dans le Financial Times aujourd'hui, il y a une analyse qui dit qu'il faudrait 100 milliards d'investissements pour rendre le Venezuela rentable pour les États-Unis. Il n'y a aucune compagnie qui voudra faire ça. De son côté, Stephen Miller est effectivement beaucoup plus idéologique. Lui, ce qu'il veut, c'est créer un chaos sur la scène internationale qui va permettre une vraie répression sur le plan intérieur aux États-Unis. Ils sont très clairs, très affirmés là-dessus. Ils disent que tous leurs opposants font du terrorisme domestique. Et c'est à dessein qu'ils utilisent cette expression de terrorisme, parce qu'ils vont vouloir emprisonner un certain nombre d'élus démocrates. Ils s'en prennent à des élus démocrates. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, s'en prend à un sénateur démocrate, Mark Kelly, pour essayer de le faire destituer de ses titres militaires.
Qui est un ancien militaire.
Donc ils s'en prennent très ouvertement, très directement à leurs opposants, et ils utilisent les moyens de l'État pour s'en prendre à leurs opposants politiques. Ça fait peur à tout le monde. Tim Walz, le gouverneur du Minnesota, qui était, on le sait, le colistier de Kamala Harris lors de l'élection présidentielle de 2024, il ne se représente pas au poste de gouverneur parce qu'il a peur des représailles politiques de l'administration.
Mais il faut dire aussi qu'il y a un énorme scandale dans son État.
Tout à fait. Il y a aussi un énorme scandale, mais la peur de la répression est réelle.
Gilles Gassani, quelle est l'influence dans cette démonstration de force des grands patrons de la tech et de la Silicon Valley, dont on sait à quel point ils se réjouissent d'un pouvoir fédéral qui déréglemente à tout va?
Mais je pense que, en réalité, c'est effectivement la question centrale, parce que on se concentre beaucoup sur Trump, et Trump fait tout pour qu'on se concentre surtout sur lui. C'est effectivement une énergie spectaculaire, extraordinaire. C'est un talent aussi. Il a totalement maîtrisé la télévision, au point que désormais il peut maîtriser tous les autres médias. Et en fait, on le voit. C'est impossible de ne pas faire attention à ce qu'il fait.
Parfois, il s'endort, hein.
Oui, mais ça fait partie du show. Même ça, en fait, ça fait partie d'une chose qu'on regarde et qu'on commente. Donc on reste, tout ça, ouais. ça fait partie du spectacle. En fait, il y a un point de données que nous avons mis en avant dans le Grand Continent et sur lequel je vous invite à méditer, parce qu'à mon avis, il pointe assez clairement un paradoxe structurant de ce deuxième mandat de Donald Trump. Donald Trump a fait beaucoup moins depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche par rapport au premier mandat. Il a organisé beaucoup moins d'événements, il a participé à beaucoup moins de conférences, il a fait beaucoup moins de choses. Il a joué au golf à peu près entre 25 et 30% de son temps. En fait, c'est un président qui a fait beaucoup moins de choses. Et quand je dis ça, évidemment, on se dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible.
Oui, parce qu'on vient tous de dire absolument l'inverse depuis
il est beaucoup plus effectif, il est beaucoup plus efficace, mais il fait beaucoup moins de choses. Donc, c'est quoi le mystère là-dessus? Ben, oui. Ça signifie qu'en fait, il y a une élite à bord. Et c'est une élite qui accompagne son action exécutive. Ce qu'il n'avait pas lors du premier mandat. Le premier mandat, il avait quand même des oppositions internes très, très structurées, très puissantes. Il y avait un État qui avait compris aussi le risque de la menace. Il y avait évidemment aussi un parti qui n'était pas totalement affaibli à lui. Il n'avait pas autour de lui des conseillers qui étaient construits, disons, dans l'épreuve de la violence politique maximale. Vous avez rappelé le 6 janvier, une bonne partie de ses conseillers politiques les plus influents, ils ont été en prison, ou ils ont été confrontés à une violence que aucun chef d'État de gouvernement d'Occident, normalement, est prêt à assumer. La mort de certains de ses partisans et le meurtre de forces de l'ordre. Et pour comprendre cette élite, il faut comprendre qu'en fait, elle est portée par la tech. Elle est portée par la Silicon Valley. En fait, la Silicon Valley, aujourd'hui, si vous voulez, on pourrait presque dire une formule. Carl Schmitt a passé un peu de temps à Palo Alto et il est aujourd'hui au bureau ovale de la Maison Blanche. Et c'est là.
Alors, rappelez qui est Carl Schmitt.
Il faudrait une émission de quelques heures, mais
on a déjà cité René Girard, qui a beaucoup influencé J.D. Vance, donc Carl Schmitt.
En fait, si vous voulez, c'est un des grands juristes du Troisième Reich, et c'est un des concepteurs, en fait, d'une vision géopolitique du monde, par sphère d'influence notamment, et par un partage du monde. C'est quelqu'un qui pense aussi, effectivement, à l'inefficacité de la démocratie. Et on voit bien qu'une partie de ces thèses sont aujourd'hui reprises par le système, mais non pas simplement parce que c'est des thèses politiques, c'est parce que c'est des thèses qui conviennent aussi à une vision du monde qui est celle qui vient de la Silicon Valley. C'est-à-dire, au fond, moi je pense qu'on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi il est si puissant, Donald Trump, si puissant et si étrange, si on ne prend pas en compte qu'en fait, la représentation géopolitique du monde qu'il est en train de projeter correspond assez étroitement à la représentation que intéresse une partie de ces grands acteurs des plateformes. Au fond, une vision d'un grand espace numérique dans lequel on s'intéresse très peu aux institutions, on s'intéresse très peu aux souverainetés, on s'intéresse très peu aux citoyens, aux lois. On a besoin d'avoir accès à des marchés, un accès brutal, on a besoin de
De beaucoup d'énergie.
De beaucoup d'énergie, de prédation, on a besoin d'imposer des choses avec force. On veut surtout pas être régulé, surtout pas être confronté à des poches d'autonomie. Au fond aussi, et ça c'est essentiel, on disait Trump, l'isolationniste, restrainer, il veut pas faire la guerre, etc. Ben, en fait, c'est impossible, si vous faites un empire digital, d'être isolationniste, parce que ce que font les plateformes, c'est vendre des services, et les services ne sont pas achetés que par les Américains, même au contraire.
Et vous surtout par les Européens, d'ailleurs, pourrait peut-être y trouver un levier, éventuellement.
C'est même, en fait, l'intérêt qui porte à l'Europe, en bonne partie, vient de là. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est un peu structuré de cette manière-là. L'écume des événements dont parle Brodel, c'est Donald Trump, et on est concentré à ça. Mais en fait, sur le fond, vous avez aujourd'hui un redéploiement d'une géopolitique post-westphalienne qui, en fait, repose sur une réalité qui est la nôtre. C'est, en fait, combien de temps on passe, nous, autour de cette table, nous, État, dans l'espace digital. Et cet espace digital n'est absolument pas westphalien. Il ne repose pas sur la représentation géographique dans laquelle se retrouvait la souveraineté telle qu'on la conçoit depuis Grotius, depuis 450 ans. Et donc, au fond, Donald Trump, c'est la première expérience, c'est une expérience extrêmement faramineuse parce qu'elle s'installe dans la première puissance militaire mondiale, c'est la première expérience d'une construction d'un régime géopolitique dans lequel une bonne partie du temps de la vie des humains et de l'économie est passée dans un espace qui est un espace digital.
Et ça expliquerait la fascination pour le Groenland, qui apparaît comme un immense espace quasiment vierge, 57 000 habitants qui vivent encore d'une pêche et d'une chasse traditionnelles.
C'est un grand espace à prendre, et contrairement à Mars, c'est plus simple d'implémenter des colonies.
Oui. Frédéric Charillon, par rapport à l'analyse, disons, plus classique, des rapports internationaux, vous adhérez à cette vision d'un espace numérique qui en fait déborde cette analyse-là.
Oui, alors c'est très intéressant parce que c'est tout à fait vrai. Nous sommes dans un monde qui n'est plus... Mais alors ce qui est curieux, c'est que ça n'est pas le monde qui y a probablement dans la tête de Donald Trump, mais de son entourage sans doute. Lui il est dans les années 50, Trump. Il rêve de l'Amérique des années 50-60. Il y a même une espèce de rêve de retour en arrière. C'était mieux avant. Bon, mais effectivement, autour de lui, il y a des gens qui sont la Big Tech, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses, au moins, enfin, c'est pas, que nous devons craindre aujourd'hui, nous, Européens, sur le plan intérieur américain et sur le plan des relations internationales. Sur le plan des relations internationales, c'est quand même le moment qui va arriver très vite, qui est déjà presque là, du bilan de toutes ces actions brutales un peu improvisées. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des idéologues derrière qui ont une grande idée de ce qu'ils veulent pour le monde, mais on a déjà vu ça avec les néoconservateurs dans les années 2000, et on connaît le résultat. C'est-à-dire que ça sème le chaos. Et là, il est probable que les actions, les déclarations même de l'administration vont semer le chaos. On est déjà dans un chaos au sein de l'OTAN. C'était très clair. Tout le monde est paniqué, tout le monde est affolé. Le Venezuela, moi, je veux bien qu'il y a deux choses différentes. C'est aller arrêter Maduro, c'est une chose. Dire nous allons gouverner le Venezuela, c'en est une autre.
Oui, tout en laissant d'ailleurs les chavistes continuer à se partager.
Il y a des milices qui commencent à semer la terreur dans les rues. On l'a dit tout à l'heure, il y a des grands spécialistes de l'énergie qui ont dit c'est pas possible, nous n'allons pas pouvoir prendre ça en main Donc ça va être le chaos. Les déclarations de Donald Trump sur l'Iran, qui met de l'huile sur le feu sans avoir la moindre idée de ce qu'il va provoquer sur place, parce qu'il va pas envoyer des troupes, va pas des boots on the ground comme on dit, en Iran, il ne le fera pas.
Non, mais enfin, il a envoyé les plus grosses bombes et il en était très fier au mois de juin, la guerre des 12 jours.
Pas très longtemps, en 10 ans après, ça y est, c'est terminé, circuler, il y a plus rien à voir, sans vouloir savoir quel était le résultat. Mais en fait, on voit qu'il allume des mèches un petit peu partout et il y a un moment où il va falloir quand même gérer le chaos. Et sur le plan intérieur américain, il y a peut-être, c'est ce que Gilles vient de dire, qui m'y fait penser, il y a peut-être une crainte à laquelle nous devons penser, qui est, pour employer peut-être un néologisme, une sorte de bouteflicaïsation, si vous permettez l'expression, de Donald Trump, c'est-à-dire un président qui sera de moins en moins actif et peut-être de moins en moins lucide, mais qui va servir de mascotte, parce qu'il est effectivement très bon comme communicateur, comme communicant, comme showman, qui va servir de mascotte à toute une équipe, ou je ne sais pas si on peut déjà appeler ça un état profond, mais en tout cas toute une structure derrière lui, qui pourrait continuer à se servir de lui, qui continuera à jouer au golf de plus en plus. Et ça, c'est peut-être quelque chose auquel nous devons réfléchir, parce qu'effectivement, comme il l'a été très bien dit, on se focalise sur Trump, on commente le moindre de ses haussements de sourcils ou de ses mimiques, il faut dire qu'elle s'y prête, mais c'est derrière que ça se passe, et ça risque d'être de plus en plus comme ça. Il y aura la mascotte qui amusera la galerie et des projets très profonds derrière.
Mais Florent Parmentier, dans cette idée de Carl Schmitt, donc le partage des empires, on voit quand même que la Russie voit ses intérêts stratégiques au Venezuela et à Cuba. Cuba qui est pantelant, là je crois que le Mexique a repris des livraisons de pétrole. Parce que sans pétrole, le régime cubain s'écroule encore plus vite. Néanmoins, la Russie voit cette espèce de rempart anti-américain que le Kremlin voulait construire dans cette partie-là du monde kaput. La Chine, investissement économique massif au Venezuela et d'ailleurs dans tout le sous-continent latino. Donc, dans ce jeu des empires, est-ce que ces deux empires-là vont rester muets et impuissants?
La question est de savoir si et dans quelle mesure en fait ils se parlent et dans quelle mesure ils se disent eh bien on va mettre de l'ordre en quelque sorte, c'est-à-dire si j'ai le choix entre le Venezuela et l'Ukraine, eh bien l'Ukraine est à ma frontière. Et tu n'as rien à y faire.
Et je tape encore plus fort, hein, puisqu'avec un missile balistique qui a été.
Est-ce que dans les échanges avec la Chine, eh bien, on a à peu près ce même. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre la diplomatie secrète, donc les échanges entre chefs d'État, et puis les effets de communication de ces différents éléments. Dans quelle mesure il faut revenir sur l'opération qui a été décidée au Venezuela. Ce qui frappe, c'est que le régime reste en place. C'est-à-dire, on a décapité l'exécutif, le régime reste en place. C'était un régime qui est mis devant un. Alors, il y a eu, dans les années irakiennes, pétrole contre nourriture, qui était là. On a pétrole contre survie politique.
Mais libération des prisonniers politiques. Oui. Hein, et Trump s'en est félicité en disant, d'ailleurs, j'allais attaquer une deuxième fois, si ça n'avait pas été fait. Bon.
Et il est, en quelque sorte, là aussi, dans une opération de communication interne, pour faire la part des choses entre ses intérêts économiques, les critiques qui pourraient lui être faites à l'intérieur, sur, en fait, le côté extrêmement franc de cette opération, puisque ceux qui pensent que c'était une opération pour libérer les Venezuela du pouvoir chaviste, eh bien, en sont pour leurs frais. On pense à la prix Nobel de la paix.
C'est qui va être reçue la semaine prochaine. Et Trump s'attend, il l'a encore dit, à ce qu'elle lui remette son prix Nobel en signe de gratitude. Comme ça, il aurait en quelque sorte le prix Nobel.
Ce qui est absolument fascinant et étonnant pour le personnage Trump et ce que ça peut dire effectivement sur le point. Mais dans ce cadre-là, on peut penser voilà qu'il y a quelque chose de notable effectivement dans le fait que dans les négociations qui se jouent en Ukraine. L'Ukraine est l'un des champs de bataille. Il y a d'autres choses qui se passent. Si on relit ce qui s'est passé en Syrie, si on regarde ce qui se passe au Venezuela, si on regarde ce qui se passe en Iran, il est difficile, voilà, de ne pas voir une forme de continuité. et en même temps, eh bien, on observe que, y compris sur si on arrive à saisir des bateaux comme ceux qu'on a vus dans les Caraïbes, ce qui s'est passé dans les Caraïbes récemment, ça veut dire malgré tout qu'il y a un certain nombre de clients internationaux de la Russie qui continuent à s'approvisionner soit en pétrole russe, soit en pétrole des partenaires de la Russie, et ça montre en quelque sorte que ça existe. Sinon, on ne prendrait pas ce problème à bras le corps.
Tara Verma, venons-en à nous. Les Européens et d'abord à l'Ukraine. Zelensky a déclaré hier que les documents de garantie de sécurité américains qui devraient compléter l'accord de Paris du début de la semaine sont prêts à être communiqués donc au président américain. On a vu Moscou redoubler ses attaques en utilisant encore une fois un missile balistique Oreshnik, je crois que ça s'appelle, pour taper Kiev. La moitié des habitants sont sans électricité. Le maire de Kiev leur demande de quitter la capitale ukrainienne. Donc on imagine la condition dans laquelle survivent ces gens. Face à cela, on va encore une fois dire les Européens sont mous, les Européens sont faibles, les Européens ne font rien. C'est ce que disent évidemment tous ceux qui s'en prennent, comme souvent, à l'Union européenne en tant que telle. Quelle est la marge de réponse? Quelle est la riposte éventuelle possible?
Ce qu'on a vu cette semaine, c'était effectivement que Steve Witkoff, qui était l'envoyé spécial du président américain d'abord pour la Russie et qui ensuite maintenant s'est adjoint le portefeuille d'envoyé spécial pour l'Ukraine, était présent, ainsi que Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, qui avait été chargé de gérer un certain nombre de dossiers de politique étrangère sous le premier mandat, qui avait été très absent en 2025 et qui est de retour. Ça envoie un message dans cette logique quand même féodale un peu de l'administration Trump, des personnages très forts de Trump qui sont venus à Paris parler avec les dirigeants européens. Je pense que c'était un signal important. Après, il y a une vraie question sur la fiabilité que l'on peut accorder aux garanties de sécurité de cette administration, dont on le voit qu'elle est en permanence en train de faire des volte-face. Et sur l'Ukraine, on en est, je pense, à la 14e volte-face de la part du président américain qui, un jour, attaque les Ukrainiens, les rend responsables de la guerre au même titre que les Russes. Le lendemain, leur dit qu'il va leur envoyer des missiles Patriot et les aider. De fait, il n'a jamais envoyé ces missiles. Tout l'équipement militaire qui a été envoyé par l'équipe de Trump cette année, c'était des reliquats de ce que l'équipe de Biden avait prévu. Il n'y a plus d'équipement militaire prévu par l'équipe de Biden aujourd'hui. Et donc, il y a une vraie question qui va être de savoir est-ce qu'on peut faire confiance à cette administration pour envoyer des armes à l'Ukraine. Ma propre analyse est que malheureusement non, parce que ce qui compte pour Donald Trump avant tout, c'est de relancer une relation avec la Russie. Il a cet espoir que...
Et de faire du business.
De faire du business. Il pense qu'il y a une relation économique totalement sous-exploitée avec la Russie de la part des États-Unis et que ce dossier ukrainien vient en travers de cela. Il veut aussi avoir le prix Nobel de la paix et mettre fin à la guerre. Il y a quand même cet objectif-là pour lui. Là aussi, c'est intéressant de voir la compétition à l'intérieur de l'administration. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, il passe son temps, ainsi que J.D. Vance, le vice-président, à dire au président « We should walk away ». Il faudrait qu'on s'éloigne de ce dossier. Ça ne sert à rien d'entacher notre réputation avec ça. Clairement, aucune des deux parties ne veut faire un effort. Donc, c'est à nous de nous éloigner et puis ils se débrouilleront bien entre eux.
Et
c'est
surtout
Trump qui
reste. L'intello du Pentagone, son nom m'échappe, le numéro 2 du Pentagone, celui qui conçoit...
Elbridge Colby.
Colby, dont le père était un personnage très important sous Bush père. Si
absolument. Ouais. Et qui ne croit pas du tout, qui n'a pas du tout la même vision que son fils de la politique étrangère. Eux, en fait, auraient vraiment voulu que Trump s'éloigne de ceci. Il ne s'en éloigne pas. Pour autant, ce qui est à mon avis assez certain pour les Ukrainiens, c'est que ceux à qui ils doivent faire confiance sont les Européens. Nous, on a aussi un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre dans la balance. Ce qui est vrai, c'est que l'appui sur le renseignement, il repose quand même principalement sur les Américains. Nous-mêmes, Européens, on n'a pas intérêt à se couper cette aide-là. Donc, ce qu'il faut que les Européens fassent, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'assurer que, même si on a parfois des vues divergentes avec l'administration, il faut les garder engagés dans ce canal de communication. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on le voit, la diplomatie interpersonnelle qui se joue avec le président finlandais, le président français, le premier ministre britannique, le chancelier allemand qui essaye de garder ce canal avec Trump, il me semble assez essentiel. Parce que sur le renseignement, et sur les strategic enablers, donc des éléments stratégiques. Pour l'instant, les Européens ne sont pas prêts à remplacer les Américains. En revanche, sur l'aide militaire, il faut être très clair, les Européens fournissent une aide militaire bien supérieure à celle des États-Unis à l'Ukraine aujourd'hui. Cet élément-là, il est clé. Et c'est assez logique, puisque l'Ukraine, pour nous, c'est un enjeu, on a dit existentiel, clairement, c'est un enjeu très clair pour l'avenir de la sécurité européenne. Je pense qu'on l'a dit, et il ne faut pas non plus... Enfin, je trouve que les critiques... vis-à-vis de l'attitude des dirigeants européens, j'avoue que j'ai parfois un peu du mal à les comprendre parce qu'ils ont plutôt obtenu, je trouve, au cours de l'année de 2025, ce qu'ils souhaitaient. À chaque fois qu'ils sont intervenus auprès de Donald Trump, qui avait critiqué ouvertement le président Zelensky, il est un peu revenu sur ses propos, Trump. Il a accepté de les recevoir, il a accepté de maintenir cette aide en matière de renseignement. Donc, on a un effet sur lui quand on est unis, quand on est clair, qu'on passe un message fort, non seulement les chefs d'État européens, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN et la présidente de la Commission européenne, ça a un effet. Donc, ne nous prétendons pas plus faibles que l'on est.
Oui, mais j'étais très frappée de découvrir le discours d'un personnage dont on parle assez peu. Il n'a pas de réel pouvoir en Allemagne, mais il symbolise une autorité morale. C'est le président de la République fédérale, Steinmeier, qui a été, lui, un ministre des Affaires étrangères social-démocrate. Et Steinmeier, dans un discours hier ou avant-hier, a tout simplement déclaré avec beaucoup de solennité et d'émotion les États-Unis d'Amérique, qui étaient notre plus grand allié protecteur, celui qui avait construit cet ordre multilatéral, dont les États-Unis étaient d'ailleurs les premiers bénéficiaires, eh bien, les États-Unis, c'est devenu un État voyou. Donc, c'est l'expression employé. Florent Parmentier, du point de vue des Européens, et je rappelle que vous travaillez entre autres à l'Institut Jacques Delors, on attaque sans arrêt l'Union européenne en tant que telle, et les attaques viennent surtout des gens qui refusent de pousser plus loin l'intégration qu'a demandé Mario Draghi dans ce fameux rapport auquel on fait toujours référence, sans hélas agir pour le concrétiser.
Oui, il y a, il y a une critique de l'Europe qui n'est pas nouvelle à Washington, mais qui a pris des tours différents. On se souvient, effectivement, on avait évoqué la guerre en 2003, il y avait cette opposition entre nouvelle et ancienne Europe, qui était une déclaration de Donald Rumsfeld, qui avait à l'époque fait beaucoup parler. Aujourd'hui, on a cette... Enfin, la critique européenne a changé de ton. Elle est,
oui, mais la critique européenne au sein de l'Europe. Parce qu'au fond, c'est ça qui nous préoccupe. Si on veut réagir, si on veut répondre, qu'est-ce qu'on fait? Or, ce qu'on entend dans la caisse de résonance médiatico-politique, et surtout en France, comme souvent, c'est l'Europe ne peut rien faire, ne sait rien faire, on est nul, quoi, pour aller vite.
Disons qu'il y a deux éléments. Il y a les questions qui sont liées... à la légitimité, ce qui est lié à l'efficacité. Sur la légitimité, elle est remise en cause par le document stratégique américain, ce qui est quelque chose de nouveau. Avant, on pouvait dire que c'était parfaitement légitime, que les Américains encouragent l'intégration européenne jusqu'à un certain point, et on pouvait être critique de forme d'efficacité, en quelque sorte. Là, ce qui est nouveau, c'est la critique du pilier, vraiment, de la légitimité des Européens. Plus que de l'efficacité. Si on se place du point de vue interne européen, la question pour les Européens est de savoir si, dans le cas précis du Groenland, qui est un exemple théorique, mais en tout cas,
enfin plus vraiment théorique,
que l'on espère voir rester théorique, la question pour les Européens est de savoir très simplement s'ils sont capables de définir un état final recherché. Qu'est-ce qu'on veut véritablement dans cette interaction sur le Groenland? La réponse simple serait, eh bien, il faut changer le coût stratégique pour Donald Trump de ce que serait une annexion du Groenland. Si on part de cela, quelles sont les manières d'agir de Donald Trump? On sait que, si on regarde, l'action européenne classique ne marchera pas. L'action européenne classique dans le sens où, s'il s'agit de faire des protestations, je pense que président Trump en sera relativement indifférent. Si on parle d'adopter des résolutions, des principes de droit, il vient de dire au New York Times que c'est sa propre moralité, pas le droit international, qui va limiter son action. En conséquence de quoi, les actions européennes traditionnelles, être capables d'employer, en fait, le champ de la moralité. fonctionne beaucoup moins bien. L'idée de pouvoir menacer sans avoir de capacité, qui parfois a frappé les Européens, ne marche pas non plus. C'est pas comme ça qu'on peut, j'allais dire, emporter la conviction. L'idée de renationaliser la réponse, de se dire, eh bien, finalement, c'est un problème danois et pas un problème européen, ne marchera pas non plus. L'idée de se passer par l'OTAN uniquement, on voit qu'il y a une forme d'impasse, là aussi, et la première ministre, on l'avait rappelé dans l'affaire d'Eriksen, elle me dit, eh bien, s'il y a une opération sur le Groenland, c'est la fin de l'OTAN, purement et simplement. Une fois qu'on a dit ça, la vraie question, donc, comment augmenter ce coût? Eh bien, il y a des éléments très simples que les Européens peuvent mettre en place tout de suite. Vous pouvez tout à fait avoir, comme nous avons fait à Kiev, une visite à Nouk de 27 chefs d'État et de gouvernement. C'est le premier élément tout simple. Vous pouvez organiser la visite du premier ministre groenlandais dans les capitales européennes, là aussi, pour rappeler le sens de la solidarité, puisque c'est un territoire qui, pour le coup, fait dans lequel enfin, pleinement partie de la souveraineté danoise, vous pouvez envoyer des patrouilles de garde, ce qui permet de tordre le cou à quand même une forme d'incongruité du discours de Donald Trump. Comment vous pouvez à la fois dire eh bien que si on le fait, c'est parce que la Russie serait voisin, c'est un problème. À mon sens, le détroit de Bering n'a pas changé, et je crois que
Donald Trump, reste très étroit.
Il reste avec une distance de 4 kilomètres, c'est-à-dire relativement peu. Et donc la Russie est, comme la grande géopolitologue Sarah Palin nous le disait lors d'une précédente présidentielle, et bien
elle
ouvre sa fenêtre pour voir,
la
Russie. C'était son expérience en matière internationale. Donc cet élément. Sur la Chine, idem. Comment penser qu'en Atlantique Nord, la Chine serait en mesure de lancer une opération qu'elle ne lance pas à Taïwan, une île qui est 60 fois moins grande. Donc ces arguments-là,
oui,
en fait, ne
tiennent
pas la route. Oui,
mais Donald Trump, toujours dans cette interview, a dit « Ah, mais Taïwan, oui, Xi Jinping peut faire ce qu'il veut, mais je ne crois pas qu'il le fera, tandis que moi, Donald, je suis président. » Donc, il y a toujours cette idée, Frédéric Charillon, que, en fait, Donald Trump ne connaît pas l'histoire, d'ailleurs, il la méprise, puisque l'histoire commence avec lui et se termine forcément avec lui. Mais pour prolonger les propos de Florent, les Européens ont des atouts. C'est le plus grand marché riche du monde pour les exportations américaines, à commencer par les exportations de services. C'est-à-dire, on retombe sur les géants de la tech. Et on voit que Donald Trump estime, quand Elon Musk a payé une petite amende financière, il considère que c'est un affront à tout le peuple américain. Donc, comment jouer de cette interdépendance, mais en essayant de la basculer davantage à notre... dans notre sens.
Ce que Florent Parmentier vient de dire est très juste, c'est-à-dire qu'il faut changer le coût stratégique de toutes les actions que veut entreprendre ou menace d'entreprendre Donald Trump. Et juste un mot sur l'anecdote que vous venez de rappeler sur Taïwan, c'est-à-dire qu'en fait, c'était très significatif de la méthode Trump, c'était en fait, quand on lui avait demandé un peu avant sa réélection qu'est-ce que vous feriez si la Chine envahissait Taïwan, sa réponse avait été, ils ne le feront pas parce qu'ils savent que je suis complètement dingue. C'est un peu moins poli en anglais, c'est fucking crazy. Mais,
et ça, oui. Il ne le dirait plus comme ça aujourd'hui, il dirait parce que je suis l'homme le plus puissant du monde.
Oui, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a chez lui vraiment cette stratégie de l'intimidation et qui joue complètement sur le fait qu'il est précisément totalement imprévisible. Et donc, et là, on voit bien que ça amuse la galerie. Mais effectivement, si on veut être très concret, c'est quand même quelqu'un qui est très sensible aux questions de coûts stratégiques, aux questions d'argent. Et quand on a touché à la Big Tech, effectivement... ils ont riposté. Ce qu'il faut absolument, pour les Européens, c'est de comprendre qu'il faut arrêter d'essayer d'amadouer le personnage. Plus nous essayons de l'amadouer, de lui offrir des jouets, c'est pas complètement faux de le prendre comme un enfant caractériel. Tiens, on va agiter un jouet.
Oui, là, Emmanuel Macron a accepté de retarder la date du G7 à Évian parce que le 14 juin, ce sont les 80 ans de Donald Trump, oui, l'anniversaire, et il a prévu un grand match de MMA, là, de catch.
Mais c'est comme Corina Machado qui lui propose de lui donner son prix Nobel. En fait, tout ça va le calmer pendant quelques heures, mais pas plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les Européens comprennent qu'il faut arrêter cette stratégie. Il faut aussi arrêter de penser que nous sommes dans un cauchemar qui pourrait s'arrêter en 2028 et que tout reviendra comme avant, après Donald Trump. Ça n'est pas le cas. Et donc, il faut effectivement, ça a été très bien dit, augmenter le coût stratégique de toutes ces fantaisies dont il nous abreuve chaque jour.
Gilles Gressani, brièvement.
J'abonde dans ce sens. Je pense effectivement, et on le voit, qu'il y a déjà aujourd'hui un coup stratégique politique très fort. 13 sénateurs ont pris position publiquement contre toute annexion du Groenland. 13 sénateurs républicains.
Donc on pourrait faire de la politique.
Donc on devrait faire la politique. Je pense qu'il y a une espèce de chape de plomb qui s'est mise sur cette espèce d'idée. Enfin, la plupart de nos dirigeants sont pris dans cette espèce de vassalisation heureuse et donc en fait on se dit rien n'est possible. En fait, il y a une énergie très profonde.
Vassalisation malheureuse.
Les leaders sont plutôt heureux quand ils sont avec Trump. Ils font des photos, ils font des pouces. Et donc je pense qu'ils ne libèrent pas cette énergie qui existe, qui est très profonde.
Et que les opinions publiques en Europe, contrairement à ce qu'on a tendance à dire, réclame jusqu'à un certain point.
Et j'ajouterais aussi un point, c'est qu'on peut critiquer la Ve République, mais dans ce moment, qui est presque caricaturellement gaullien, la Ve République, c'est un système qui permet de réagir et réagir vite, et qui pourrait permettre effectivement de lancer cette perspective-là. Moi, la grande géopolitologue Sarah Palin a été citée, donc je cite le grand philosophe Mike Tyson. comme vous le savez, il disait, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive une droite dans la figure. Là, les États-Unis ne sont pas la Russie, Washington n'est pas Moscou. Il est possible de faire en sorte que cette tentative de constitution, de consolidation impériale clanique n'arrive pas jusqu'au bout, à condition, évidemment, de faire la politique.
Tara, le mot de la fin, après 3 ans à Washington, vous avez survécu.
J'ai survécu, c'était passionnant. Un mot sur les Européens. En fait, je ne crois pas à la confrontation entre les États-Unis et l'Europe. En revanche, ce qu'il faut que l'Europe fasse, et elle a les moyens de le faire, c'est mettre en place un rapport de force. Bien comprendre les dynamiques qui sont en jeu au sein de l'administration Trump, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Dans 48 des 50 États aux États-Unis, l'Union européenne est le premier investisseur. Il y a des leviers économiques, notamment l'instrument anti-coercition qui a été élaboré par la Commission européenne sous le premier mandat Trump, que l'on peut menacer d'activer contre les États-Unis, ce qu'on n'a pas voulu faire aujourd'hui, et peut-être activer si jamais la situation se détériore. Je pense que ça jouera un rôle certain dans la prise de décision à Washington. Il faut juste qu'on se décide à le faire.
Qu'on se décide à le faire, et quand vous voyez l'état de nos systèmes démocratiques, et j'inclus là-dedans le Royaume-Uni, qui est en train de vivre une crise à la fois institutionnelle, économique, sociale, politique, assez semblable à la crise française. Donc quand on voit ces Européens qui sont volontaires pour aider l'Ukraine, et le sommet de Paris mardi était symbolique à cet égard, est-ce que vous voyez au niveau de nos institutions démocratiques, quand justement Washington veut nous imposer ses propres critères idéologiques en soutenant, ouvrez les guillemets, les partis patriotes, pour parler clair,
les extrêmes droites,
est-ce que nos démocraties sont en état?
Je pense que oui, et je pense que c'est le rôle des politiques d'expliquer tout cela à leurs citoyens et de bien dire aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer. Il y a une agentivité certaine des citoyens, notre droit de vote, notre capacité à choisir, il est encore maintenu, il est préservé, il existe. Il faut qu'on soit informé de ce qui se passe dans les campagnes électorales, bien comprendre qu'il risque d'y avoir des ingérences. Clairement, du côté russe, ça s'est affirmé. Peut-être aujourd'hui, du côté de Washington, c'est aussi indiqué dans la stratégie de sécurité nationale, se prémunir de ces attaques. L'Union européenne, là aussi, est dotée d'outils pour lutter contre les ingérences russes et chinoises. Il va falloir créer
lesquelles,
un système.
Lesquels?
Alors, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de bloquer des bots qui envoient des fausses informations. On n'a jamais envisagé de constituer des outils contre les États-Unis, notamment parce que les plateformes numériques sont américaines principalement.
Oui, ça c'est quand même
un problème majeur. Mais je crois qu'on prend conscience qu'il va falloir le faire, là aussi parce que les États-Unis affirment très clairement que ce qu'ils attendent de leurs alliés, c'est un alignement idéologique que je ne crois pas qu'on soit prêt à leur donner aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup à vous quatre. Je rappelle vos publications respectives. Tara Varma, vous avez écrit avec Sophia Besch un papier en anglais sur l'Alliance des révisionnistes. C'est paru en avril dernier sur le site de l'IISS. Florent Parmentier, en mars prochain, géopolitique de l'Eurovision. C'est très malin de faire ça, parce que ça dit beaucoup de choses, aux éditions Bréal. Frédéric Charillon, vous avez publié un très bon ouvrage sur la géopolitique de l'intimidation l'an dernier chez Odile Jacob. Et Gilles, je rappelle évidemment le livre « L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'IA » paru chez Gallimard en avril 25, et je crois que vous allez lancer avec Gallimard une nouvelle collection, et je crois que nous sommes tous abonnés au Grand Continent, et si vous ne l'êtes pas, il faut le devenir.
Bonne résolution pour 2026.
Voilà. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique d'Ali Yard, Théa Corlaire et Patricia Miura de la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Et maintenant, bien sûr, Marina Carrère d'Encausse et ses carnets de santé, puisque nous sommes samedi. Très bon week-end et à samedi prochain.